L'église qui s'élance devant vous a été construite en deux temps. Les premières fondations datent du XIIIe. Les vestiges de la Renaissance dans l'architecture religieuse sont peu nombreux dans le département. Cette église qui possède plusieurs éléments Renaissance fait donc figure d'exception. Ce style a été puisé dans l'art italien. Le rôle du roi François Ier devient donc déterminant. Il invite sur son territoire de nombreux artistes italiens, dont Léonard de Vinci. Je vous invite à avancer vers l'église. Nous sommes donc au XVIIIe siècle, et pendant un siècle, la construction s'échelonne en commençant par la réalisation de la bande noire posée pour honorer les défunts, autrement dit la litre funéraire, que vous pouvez encore distinguer au niveau du porche à l'entrée. Ensuite, en entrant, vous pouvez voir que les murs de l'église ont été badigeonnés de blanc et décorés de faux joints. Pour finir, le plafond en plâtre est posé, le maître verrier Dagran rénove les vitraux originaux et la sacristie est bâtie. Saint-Pierre et Saint-Radegonde sont les patrons de cette église. Vous pouvez ainsi voir au fond de l'église un remarquable retable en bois sculpté du XVIIIe siècle, orné de trois toiles représentant Saint-Pierre, Saint-Radegonde et la scène de l'Annonciation. À l'origine, le fidèle apôtre du Christ se nommait Simon. Le Christ ayant cerné son dévouement le surnomma Képha. Cette appellation symbolique araméenne se traduit par Pierre. Simon-Pierre a donc été la pierre sur laquelle le Christ a construit son église. Lors de la passion du Christ, il renie, comme ce dernier l'avait prédit. Le coq sur le tableau représente ce reniement. Avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. Par la suite, il part diffuser la parole du Christ avec Paul, l'apôtre des nations. Tous deux ont écrit des évangiles, d'où la présence d'une Bible au pied de Saint-Pierre, sur le tableau. Mais leur foi et leur amour les conduisent sur le territoire de l'empereur Néron, qui leur fait subir le martyre. Pierre est crucifié, la tête en bas. Saint-Pierre est aujourd'hui le patron des pêcheurs, des poissonniers et des maçons. Comme l'illustre le tableau, il détient un trousseau de clés. L'une est la clé de la terre et l'autre du ciel. Nous sommes à l'époque historique des Mérovingiens. Radegonde de Poitiers est née en 519 à Erfurt-sur-Thuringe et morte en 587 à l'âge de 68 ans à Poitiers. Son père, le roi Berther de Thuringe, en Allemagne, est assassiné par ses propres frères. Radegonde est emmenée à la cour de Thierry Ier. Ce dernier, en échange de son hospitalité, exige une partie du royaume de Thuringe. Il forme une alliance avec Clotaire Ier, le fils de Clovis, qui écrase l'armée ennemie. Radegonde devient donc la prisonnière de Clotaire Ier, le roi des Francs. À ses 18 ans, Clotaire décide de l'épouser contre son gré. Celle-ci tente de s'enfuir, mais elle est rattrapée. Sur le tableau, sa cape bleue et sa couronne, les symboles de la royauté, certifient son rang de reine des Francs durant 20 années. Radegonde se détache de plus en plus des préoccupations de la cour. Elle fonde un des premiers hospices de France. Clotaire, qui a malgré tout accepté la vocation de la reine, change d'avis et envoie une troupe pour la ramener à la cour. L'histoire raconte que Radegonde s'enfuit à travers un champ d'avoine que des ouvriers sont en train de semer. C'est alors que se produit le miracle des avoines. En effet, la sainte reine fait instantanément pousser l'avoine pour s'y cacher. Elle se rend à Poitiers, où elle persuade Clotaire de fonder le monastère Notre-Dame, dans lequel elle meurt. En 1943, la cloche, datant de 1579, est classée au monument historique. Et en 1995, c'est au tour de l'église dans son intégralité. En sortant, je vous invite à regarder la façade de l'église, notamment les initiales tout en haut et les coquillages de part et d'autre de l'entrée.